Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
L'émission s'appelle Regarde ailleurs. L'idée, c'est vraiment donner la parole à des gens que je rencontre sur ma route, sur les routes du monde, en France, à l'international. Donc l'émission donne la parole à des voyageurs, des écrivains, des réalisateurs, des gens qui ont une démarche un peu atypique. Toi Catherine, je crois qu'on a pris contact via les réseaux sociaux il y a peut-être un an et demi, via Facebook, où je crois qu'un des premiers échanges qu'on ait eu, c'était, tu me disais, je vais partir de Strasbourg en roller sans argent. Et je te retrouve dans mon salon un an et demi plus tard, 16 mois plus tard. Donc ça y est, tu l'as fait, tu es parti de Strasbourg en roller. Et bah, j'imagine qu'en 16 mois, il s'est passé plein de choses qu'on va pas forcément pouvoir raconter dans ce micro. Mais j'ai quand même envie de te donner la parole sur peut-être la genèse de ton projet. On va commencer comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Comment tu t'es dit un jour, allez, je lâche tout, je prends des rollers et je me casse?
Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais donc à Strasbourg. Et comme tous les Strasbourgeois, t'as un vélo. Et en fait, comme tous les vrais Strasbourgeois, tu te fais voler ton vélo. Et à partir de là, en fait, je me suis acheté des rollers et le monde du roller s'est ouvert à moi. J'ai découvert toutes les disciplines, donc je m'y suis mise. Très vite, j'ai rencontré du monde. Et très vite, j'ai progressé. Et au bout de quelques mois, je me suis dit, mais je veux faire du roller, en fait. Je veux en faire tous les jours. Et vu que j'aime beaucoup les gens, les rencontres, je me suis dit qu'il fallait que j'aille en roller rencontrer les gens et puis que j'allais être heureuse comme ça.
Tout simplement.
Ouais, c'est ça.
Est-ce que tu avais déjà voyagé avant ou est-ce que c'est vraiment ton premier grand voyage?
C'est le premier voyage. C'est le premier voyage et d'ailleurs, j'aspirais pas au voyage avant, pas particulièrement. Quand j'entendais mes amis dire « j'aimerais trop aller dans tel pays », moi, ça me tentait pas plus que ça. Et du coup, là, c'est vraiment venu par le roller, où je me suis dit « bah c'est un moyen de déplacement qui coûte pas cher, donc on peut partir », et puis du coup, je l'ai fait, quoi.
Mais il y avait aussi ce projet derrière de voyager sans argent.
Oui, donc du coup, je sais pas vraiment comment ça m'est venu, mais pour moi, c'était naturel de le faire sans argent. Alors peut-être... pour être libérée justement de ce côté argent et ce côté du coup restrictif, je pense, de l'argent, parce qu'il faut calculer le budget, il faut faire attention à ses dépenses. Et moi, je me suis dit, bah, pars comme ça, j'ai confiance en l'humain. Et je me suis dit, de toute façon, je trouverai bien à manger, je trouverai bien des gens qui m'accueillent, donc fais confiance et pars.
Mais c'est incroyable, donc ça nécessite de savoir sortir de sa zone de confort et savoir aussi demander, parce que quand on voyage sans argent, on est quelque part dépendant du bon vouloir des gens qu'on va rencontrer sur son chemin.
On est complètement dépendant. Je suis complètement dépendante de vous, de tout le monde, et ça me plaît parce qu'en fait, ouais, il faut oser demander, faut oser aussi, enfin, faut accepter aussi les refus, même si c'est pas vraiment des refus. C'est voilà, enfin, c'est normal que tout le monde ne peut pas accueillir quelqu'un chez soi, c'est normal. Donc faut accepter, et puis ça ouvre aussi l'esprit à plein de choses. Enfin, on rencontre beaucoup de gens comme ça. Ouais.
Mais du coup, il faut aussi savoir donner énormément de sa personne. Il faut savoir être à l'écoute, il faut savoir raconter les mêmes histoires tout le temps, il faut savoir peut-être donner un coup de main à la cuisine. Enfin, j'imagine que quand on fait le choix de partir sans argent, savoir demander, c'est déjà pas facile, mais il faut aussi savoir apprendre à recevoir.
Alors, apprendre à recevoir, oui. Et par contre, je rebondis sur le donnant-donnant. Moi, ce que j'ai... Enfin, dans mon projet, en fait, j'avais pas comme projet de proposer en échange mon aide pour recevoir. Vraiment, je voulais expérimenter le don inconditionnel des gens. Donc, je proposais jamais rien en retour et je faisais exprès. Alors que j'ai deux jambes, deux bras, ils fonctionnent très bien. Et d'ailleurs, on a fait plein de choses ensemble. On a, on a coupé des sapins, on a construit des piscines, on a fait tellement de choses. Mais c'était après qu'ils aient accepté de m'accueillir sans avoir de retour.
Pourquoi ?
Ça, c'est une question que je me pose. Est-ce que le désintérêt... Le désintéressement, est-ce que ça existe vraiment? Je sais pas. Voilà, question ouverte. Je me pose encore la question, mais je pense que l'aide, l'entraide, c'est quelque chose qui part du cœur et qui appartient à tout le monde. Je pense que tout le monde a ça en lui et qu'il a pas forcément besoin d'avoir un retour. Même si on a l'impression, enfin, dans cette société, que si tu fais pas quelque chose, bah, tu mérites pas autre chose. Mais en fait, je pense que ça marche pas comme ça initialement. Alors évidemment, quand on reçoit de l'aide, c'est naturel d'aider en retour, et pas forcément en retour de la personne qui nous a aidés, mais en retour de quelqu'un d'autre qui en aurait besoin. Enfin, moi, je vois ça comme ça, l'entraide globale, et pas juste entre deux personnes, et pas de manière intéressée.
Force de ton expérience de 16 mois de voyage, est-ce que ça te paraît juste si je dis que l'être humain est par nature plutôt bon et généreux, mais c'est souvent le système qui va le corrompre et le pervertir ?
Alors, je pense que oui, enfin, je suis d'accord. Le système est via la peur, en fait, je pense. Parce que je pense qu'avant, on avait beaucoup plus l'occasion de s'entraider. Et plus ça va, et moins on a l'occasion de s'entraider. Mais par contre, on a toujours l'envie de s'entraider. Et ça, je le vois par mon expérience, c'est que les personnes qui me reçoivent, généralement, elles sont, ou alors elles jouent très bien comédie, mais elles ont l'air heureuses quand même de pouvoir aider quelqu'un qui est dans le besoin. Et je pense que si elles m'avaient pas aidé moi, elles auraient aidé quelqu'un d'autre, mais si elles avaient eu l'occasion. Donc moi, bon, j'ai créé cette occasion en toquant à leur porte, mais surtout moi qui étais aidée hein, dans l'histoire. Mais oui, la société ou la peur, les peurs en général qui découlent de cette société. Ouais.
Donc là, tu as fait 16 mois sur les routes. J'aimerais qu'on revienne un peu au début. Donc tu pars de Strasbourg. Comment ça se passe? Comment est-ce que tu définis ton itinéraire? Où est-ce que tu vas dormir? Quelles ont été les peurs que tu as pu avoir toi aussi, j'imagine, avant de partir?
Bon, en vrai, j'avais pas tant de peur. Je me suis dit, je m'en rappelle très bien, une semaine avant de partir, c'était un mercredi, je me suis dit, bon, Catherine, dans une semaine, tu sais pas où tu dors. Mais j'avais pas peur, c'était plus une excitation de l'aventure. Si, je me suis dit quand même, bon, est-ce que je vais pouvoir manger? Parce que j'ai jamais vraiment mangé en demandant. Et j'ai toujours payé mes repas, donc si, ça m'avait fait un petit peu peur. Mais en fait, la première journée, j'arrive dans une boulangerie, je demande, et là, on me donne entrée, repas, dessert, boisson, le repas complet. Et sur la canette, d'ailleurs, c'était marqué « Je serai toujours ouverte ». Enfin, c'est trop marrant, donc c'est un petit signe comme ça. Et tout de suite, donc, cette peur, elle s'est dissipée. Et puis, j'ai remarqué, en fait, c'est jusqu'au bout, qu'à chaque fois que j'ai faim et à chaque fois que je demande, ben, je trouve à manger. Donc, c'est comme ça. C'est la providence, on appelle ça. Des personnes appellent ça la providence. D'autres peurs? Non, j'avais pas vraiment d'autres peurs, en fait.
Comment tu fais pour demander à manger? Voilà, emmène-nous, par exemple, dans cette boulangerie où tu as eu entrée, plat, dessert. Quelle est ta technique? Comment tu fais pour demander et approcher l'autre?
Alors déjà, je rentre et en souriant. Est-ce que ça, c'est important? Et puis, en fait, je me présente, je leur dis que je m'appelle Catherine, que je voyage en roller toute seule et que je n'ai pas d'argent. Je présente mon projet et là, je leur demande s'ils veulent me donner quelque chose. Soit ils peuvent me donner, ils me donnent, ou alors bah, ils peuvent pas, ou ils ne veulent pas. Et puis, c'est OK, je continue, je demande ailleurs. Quoi.
Donc, une fois que tu as trouvé à manger, il faut trouver aussi un dodo pour la nuit.
Oui. Et donc pour le logement, c'est pareil. Le soir, je toque aux portes. Et pareil, je m'appelle Catherine, je voyage toute seule, sans argent, en roller. Je fais le tour de la France et je cherche un endroit où dormir. Et donc du coup, je leur demande s'ils ont un petit bout de canapé pour moi, pour passer la nuit et que je puisse repartir le lendemain reposée. Et beaucoup de gens ont de la place. Enfin, moi, je suis sûre que, tu vois, là, il y a un canapé. Et y a plein de gens qui ont juste un canapé et ça suffit en fait. Parce que je dis ça parce qu'il y a plein de personnes qui m'ont dit moi j'ai juste un canapé donc je peux pas accueillir. Mais un canapé c'est déjà énorme en fait. Après j'ai déjà dormi sur des cartons par terre, ça va aussi. En fait du moment que j'ai un toit, parce que j'ai promis à mes parents de dormir sous un toit tous les soirs, moi ça me va. Voilà.
Proportionnellement, quand tu vas donc toquer aux portes, hein, donc j'imagine ça y est, tu es en roller, tu fatigues, donc c'est le moment de te dire bon bah tiens, où est-ce que je vais dormir ce soir? Donc tu commences peut-être la tournée des portes. Combien de portes sont ouvertes et combien de portes s'ouvrent proportionnellement?
Alors, je ferai des statistiques et je reviendrai vers toi. Ouais. Mais comme ça, en fait, ça dépend, parce que des fois, la première porte chez qui tu toques t'ouvre et t'accueille. Et parfois, je dois toquer pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures avant de trouver. Et c'est-à-dire, peut- peut-être une quarantaine ou une cinquantaine de portes, je sais pas. Je sais pas trop combien, mais en fait, c'est hyper varié. Mais pour moi, ce qui est important, c'est de toquer jusqu'à ce que je trouve. Donc, des fois, on me demande, mais est-ce que t'as déjà dormi dehors? Ben, en fait, j'ai jamais dormi dehors parce que j'ai toujours cherché jusqu'à ce que je trouve. Donc, la persévérance est une vertu.
Mais non, quand tu vas toquer, tu sais pas du tout qui c'est qui va ouvrir la fenêtre, ouvrir la porte. T'as aucune idée des gens qui sont derrière cette porte-là.
Non, c'est exact. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et bon, jusque-là, je suis tombée vraiment chez des personnes très aimables, correctes. Mais alors, je sais pas si tout le monde est aimable et correct. Peut-être que si, au final, si on cherche bien. Bon, après, c'est vrai que je fais fonctionner aussi mon intuition. Quand je suis devant la porte, je ressens tout de suite si, ok, faut que je toque, ou alors, passe ton chemin. Et pendant ce voyage, ça m'a beaucoup, beaucoup appris sur moi-même, et notamment sur l'écoute de moi-même, sur mon intuition, apprendre à m'écouter, quoi.
Alors, cette intuition, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu arriverais à me définir ce que c'est que l'intuition? Et comment est-ce qu'on fait pour l'écouter? Parce que ça, c'est un conseil qui peut plaire, qui peut intéresser beaucoup de gens. Comment se relier à son intuition et savoir si elle est juste ou pas?
Alors, moi, je pense que c'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement et ça doit être personnel et propre à chacun. Pour ma part, c'est face à une situation, je m'arrête. Et puis, dans le corps, en fait, on ressent soit une impulsion qui te fait avancer vers quelque chose, donc par exemple la porte vers laquelle je veux aller, ou soit je m'arrête et j'ai une retenue, et donc ça fait que j'avance pas. Donc dans ce cas-là, je continue ma route. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à appréhender tout au long du chemin, et ça marche aussi pas seulement pour chercher l'hébergement, mais par exemple pour choisir ma route. Des fois, j'arrive à un croisement et là, bah, je sais pas. Je sais que les deux chemins y mènent, mais quel est le meilleur chemin, je sais pas. Et donc là, pareil, je m'arrête. Ça m'est déjà arrivé de rester pendant une demi-heure sur place à me dire gauche ou droite, je sais pas. Et plus ça allait et plus mon intuition était plus écoutée. Donc du coup, j'arrivais à décider plus rapidement ce que je voulais faire. Mais c'est une écoute, je pense, une impulsion du corps et des fois le souffle aussi qui s'accélère ou qui ralentit. Enfin, ouais. Mais ça doit être propre à chacun, par contre.
Down on my knees, I'm begging you, down on
Bien, cette notion d'ouvrir les portes et de rentrer chez des gens qu'on ne connaît pas, c'est autant d'univers différents, parce que finalement on se rend compte que dans un même pays ou même dans une même ville, chacun a un mode de vie qui lui est propre, donc là tu as dû rentrer ou pénétrer dans tellement d'univers différents.
Oui, oui, je suis rentrée dans tellement de demeures différentes. C'est hyper riche, en fait. Je sais pas trop... C'est tellement large, en fait. Je sais pas quoi te dire dessus.
Mais comment tu fais pour connecter la personne? Parce que j'imagine qu'on est tous, quelque part, des êtres vibratoires. Donc, des fois, c'est facile d'entrer en lien, d'entrer en communication avec une personne. Et des fois, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, quand tu es là devant une porte fermée qui s'ouvre, tu rentres dans une maison, tu sais pas si c'est un jeune homme, une vieille dame. Et l'idée, c'est quand même d'arriver à trouver un lien, j'imagine, pour pouvoir passer une bonne soirée avec la personne qui t'accueille.
Oui, en fait, moi, j'ai pas de but précis. Quand je vais chez la personne, je me dis, j'ai un toit, je vais dormir. Et maintenant, j'ai pas d'attente précise sur comment va se passer la soirée. Donc, je me mets pas la pression sur j'espère qu'on va bien discuter, j'espère qu'on va rigoler ou quoi. Si vraiment la personne, je la sens dans son monde, elle m'a ouvert la porte pour m'aider, mais c'est juste pour m'aider, et bien, je la laisse. Ok, c'est complètement d'accord. Si la personne est hyper curieuse, c'est ce qui, la plupart du temps, c'est ce qui arrive, me pose plein de questions, j'y réponds. Et je laisse vraiment les choses se faire, naturellement. Par contre, j'aime beaucoup, moi, c'est observer les personnes. Donc même si on ne parle pas, j'aime bien les regarder et je suis très attendrie, en fait, je suis attendrie par l'humain. Je ne sais pas si... Alors, je t'invite à faire l'expérience un jour, si t'es à ta pompe à essence et que t'attends derrière la voiture qui est en train de mettre de l'essence. Eh ben, moi, ça me l'a fait, je trouve ça trop beau. La personne, elle sort de sa voiture. Puis elle commence à se diriger vers la pompe à essence. Puis elle regarde, diesel, sans plomb, 95, 98. Puis elle choisit son petit pistolet, là. Puis après, elle le met dans sa voiture. Et en fait, chacun de ses gestes, je trouve ça trop mignon. Je sais pas. Les humains, je trouve les humains trop mignons. Et en fait, je ne sais pas si c'est ce regard-là que je pose sur eux qui les met à l'aise, les gens. Mais généralement, ils s'ouvrent à moi. Et je leur remercie parce que c'est fort quand même. Je le réalise maintenant, mais... c'est fort. Pardon.
On va essayer de créer un peu une dimension visuelle avec cet auditeur qui nous écoute. Donc tu arrives chez quelqu'un, tu vas passer une soirée, donc tu lui expliques « Bonjour, je m'appelle Catherine, je voyage en roller sans argent, est-ce que vous pouvez m'aider pour la nuit ?» Donc sous-entendu, tu pars le lendemain matin, c'est comme ça que ça se passe, tu passes une nuit, le lendemain tu continues ton trajet, ton itinéraire en roller. Et comment ça se passe si le matin, t'as pas envie de partir ou s'il pleut ?
S'il pleut, je pars quand même. C'est pas, enfin moi j'aime bien la pluie, en fait j'aime bien rouler sous la pluie, sous la neige, la grêle. Cet hiver j'étais dans les volcans d'Auvergne en Ardèche et j'ai roulé sur la neige et c'était drôle. En fait je mets mon poncho de pluie, donc toutes mes affaires et moi-même on est protégés de la pluie, puis j'allume mon enceinte, je mets de la musique, généralement je mets un Disney et puis là j'ai l'impression d'être dans un cartoon en train de rouler, mais c'est génial, moi j'adore quand il pleut. Et par contre oui, ça m'arrive des fois de... Ça m'est pas arrivé vraiment beaucoup de ne pas vouloir partir. Ouais, non, en fait, je crois que ça m'est pas arrivé de ne pas avoir envie de partir. Parce que j'aime partir et j'aime rouler. Et je sais que je continue à vivre des expériences fortes. Des fois, c'est la fatigue, par contre. Avec la fatigue, je sens que mon corps a besoin de rester ou ne veut pas faire une trop grande étape. Donc là, je m'adapte. Soit on me propose... de rester, donc là j'accepte directement et comme ça j'en profite pour m'en poser, ou alors je décide de faire une plus petite étape ce jour-là, donc au lieu des 60 ou 80 kilomètres j'en fais 20 et puis comme ça je repose plus mon corps.
On parlera après de la partie performance, parce que donc tu es parti en roller, 10 000 km, tu m'annonces que tu en fais 60 à 80 par jour, ce qui me paraît énorme, surtout des fois j'imagine que ça monte, et des fois il pleut, des fois il vente, des fois il grêle, et c'est pas toujours facile. Je reviens quand même, avant de parler de ça, je reviens d'abord sur la partie accueil, cette notion du lien. Donc quand on rencontre quelqu'un, on va créer un lien avec une personne. Est-ce que ça te fait pas, toi, des fois, c'est dur des fois de se séparer de quelqu'un qui t'a ouvert sa porte, qui t'a ouvert son cœur? Est-ce que c'est pas... Enfin, moi, je sais qu'en voyage, des fois, c'est dur de partir parce qu'on se sent bien avec une personne et on se rend compte qu'on a envie de partager plus, plus longtemps, plus de temps.
Ouais. En fait, j'ai pas trop ce ressenti parce que pour moi, quand je pars, c'est pas définitif. Et alors, il me faudrait un deuxième tour de France pour aller revoir tous mes hôtes, donc je le ferai pas. Mais je garde généralement contact avec tous, quasiment tous. Ce qui fait que bah, tous les jours, j'ai des messages et j'adore parce que j'ai plein de nouvelles de mes hôtes. Mais en fait, je pars et je sais que je peux revenir quand je veux. D'autant plus que je sais où ils habitent. Donc là, c'est facile pour moi. Mais j'en ai revu certains aussi. Certains m'ont rejoint aussi par la suite pour passer quelques jours avec moi. Et parfois, quand je repasse dans la région, je reviens les voir. Donc en fait... j'ai pas trop cette notion de temps limité, ce qui fait que je pourrais les revoir de toute façon, et que ce soit dans cette vie ou dans une autre vie d'ailleurs. Donc non, généralement, j'essaye vraiment d'être présente pleinement quand on est ensemble, et comme ça, quand je pars, bah, je suis contente de partir parce que j'ai profité jusqu'au bout.
C'est ce qui s'est passé là à Colmar, tu me disais, hein, sur ton chemin du départ, donc Strasbourg-Colmar, tu t'étais arrêté chez un hôte que tu as retrouvé un an et demi, enfin 16 mois plus tard.
Oui, c'est ça, avec Marie-Laure et Métine, ils sont adorables. En fait, ils m'ont accueilli, ça faisait 2 semaines que je voyageais, je crois, et ils m'ont accueilli à Colmar, et le temps est passé si vite. Et là, je revenais sur Colmar, je sais qu'ils avaient déménagé, mais j'étais plus sûre de où exactement. Finalement, ils sont toujours à Colmar, un peu plus loin. Et en fait, je leur ai juste envoyé un message en disant que j'étais de passage, que je voulais leur faire un bisou. Et en fait, on s'est revus et c'était hyper émouvant parce que elle a suivi mon voyage pendant tout ce temps. Métine a bien grandi. Enfin, on s'est raconté. En fait, c'est comme si, enfin, non, c'est pas comme si, c'est on est amis en fait. On est devenus amis et je suis devenue amie avec toutes les personnes qui m'ont accueillie.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Sacré carnet d'adresses, et j'imagine plein de copains, plein d'amis. C'est vrai que tu partageais ton voyage de temps en temps, je voyais passer des vidéos. Est-ce que tu peux me parler de cette partie-là, de ton tour de France, hein, que tu prenais vraiment le temps quand même de temps en temps de faire des montages en plus, hein. C'est des vidéos montées avec une musique, différents plans séquences. Il y a aussi tout un travail qui est fait sur la partie montage et partage de ce que tu as vécu comme expérience.
Ouais, alors ça j'ai vraiment hésité au début, avant de partir, de documenter ou pas mon voyage. Parce que je suis perfectionniste et je me suis dit, si je fais quelque chose, il faut que je le fasse bien et que je le fasse régulièrement. Et je me suis demandé si ça allait pas perturber mon voyage. Donc au début, bon, je prenais des petites prises de vue, je faisais le montage quand je pouvais. Et ça me prenait du temps pour un montage de 2 minutes. Pour un résultat de 2 minutes, je prenais 3 ou 4 heures de montage. Et donc du coup, bah, j'ai commencé, puis en fait ça m'a plu parce que j'aime bien aussi le travail de l'image, les montages, enfin, et ça me permet surtout aussi de me garder un souvenir en fait, parce que sur mon portable, du coup je prends une photo avec toutes les personnes que je rencontre dans mon voyage et des petits bouts de vidéo, des petits bouts de vie qui me rappelleront en fait, enfin quand je les revisionnerai plus tard. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Donc du coup, je fais des petites vidéos comme ça, que je monte généralement le soir en allant me coucher. Donc ça m'est arrivé, par exemple, de faire une nuit blanche parce que je parlais jusqu'à minuit, 1 heure du matin avec mes hôtes. Puis après, hop, je me mets sur le montage. Et en fait, avant de pouvoir dormir, je finissais la vidéo. Et puis, c'était le matin, fallait que je reparte. Donc, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai décidé de pas me prendre la tête dessus. Donc, un lâcher prise là-dessus, et c'était bien. Parce que du coup, j'ai pu sortir quand je voulais mes vidéos. On m'a contacté aussi pour me dire si je voulais être, je sais plus, ambassadrice de je sais pas quoi, parce que mes vidéos, vu que c'était sorti régulièrement, je pouvais être rémunérée pour ça. Mais en fait, je sais que là, si j'avais accepté, ça m'aurait mis une pression. Donc, j'ai préféré garder complètement libre ce champ-là. Et puis, ça me faisait plaisir, quoi.
Ces vidéos, t'en as fait combien et qu'est-ce qu'elles racontent? Qu'est-ce que tu dis dedans? Qu'est-ce que tu livres?
Alors concrètement, c'est pas super intéressant. C'est vraiment intéressant pour moi, pour regarder des souvenirs. Je dis mon itinéraire, je dis le nombre de kilomètres que je fais pour avoir un suivi sur le voyage physique, quoi. Je mets les photos des personnes que je rencontre. Et puis des fois quand il y a des moments forts, donc par exemple quand je fais un tour en bateau, parce que j'ai jamais fait de bateau et donc du coup c'était nouveau pour moi, quand je vois une jolie vache, parce que c'est très joli les vaches, des petits moments, mais bon c'est pas super intéressant non plus.
Aujourd'hui c'est quelque chose qui fait rêver beaucoup de monde, hein, de faire des vidéos sur les réseaux sociaux, sur TikTok et devenir influenceur.
Ouais. Non, ouais, c'est vrai que ça peut... moi je t'avoue que je suis pas du tout là-dedans, donc je sais pas... Alors, j'ai une réflexion là-dessus, justement, sur est-ce que je veux avoir de l'argent, en fait, grâce à ces vidéos? Est-ce que je veux avoir de la visibilité? Et en fait, ma réflexion aboutit sur non. Parce que je trouve ça déjà un peu étrange que des personnes que je ne connais pas du tout, que je ne vais jamais rencontrer, que je n'ai jamais rencontré, suivent juste mon voyage... mais de loin et de manière très rigoureuse. Enfin, moi, vraiment, mon partage, c'est pour moi en premier. En deuxième, c'est pour mes proches, pour leur donner des nouvelles, pardon. Et troisièmement, pour les personnes qui m'ont hébergée, pour leur garder ce souvenir aussi pour eux. Après, pour les autres personnes, par contre, ça peut inspirer. Donc, par exemple, tout ce que tu fais sur les émissions de radio, c'est super pour inspirer les personnes, mais qu'elles soient inspirées et qu'elles fassent les choses. Mais pas qu'elles vivent par procuration, en fait, le voyage. Ça, c'est quelque chose qui me ferait un peu peur. Donc, je veux pas influencer dans ce sens-là.
Il y a souvent le côté instrumentalisé. Quand on devient ambassadeur d'une marque, hein, quelque part, ça nous le produit. On représente un produit, clairement. On devient un panneau pub ambulant. Et je comprends qu'on ait envie de rester résilient et rester libre face à toutes ces contraintes-là. Tu as utilisé d'ailleurs le mot libre, continuer à rester libre et indépendante. Qu'est-ce que c'est que pour toi, la liberté?
Alors, la liberté, c'est, je me rappelle un matin, je chausse mes rollers, je suis sur la route, et là je me fais cette remarque, je me dis, j'ai rien à faire, mais je peux tout faire. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, c'est peut-être ça la liberté. C'est quand vraiment, tu n'as pas de contraintes imposées, et que tu peux faire ce qui te rend heureux. C'est choisi, quoi. Et la liberté, alors si je devais donner une définition, pour moi, c'est choisir ses propres contraintes. Je pense que c'est ça, parce qu'on ne peut pas vivre sans contraintes. Par exemple, là, je suis accoudée à une table, et si elle n'était pas là, c'est une contrainte, la table, ben, je serais dans le vide. Et si on n'avait pas ce sol-là en dessous de nous, on serait tombé dans le vide. Donc, ce sont des contraintes. Et moi, je pense qu'on choisit... nos contraintes, et à partir du moment où on est en accord avec et qu'on fait les choses de façon alignée, je pense qu'on peut se sentir libre.
Alors c'est quoi les contraintes auxquelles tu acceptes de te soumettre dans ta vie présente?
Le fait, alors c'est hyper paradoxal, le fait de voyager sans argent, pour moi c'est une contrainte. Dans le sens où si je veux me payer un café, mais je peux pas. Si je veux être seule à ce moment-là parce que j'ai besoin d'être seule, je peux pas. Mais ce sont des contraintes choisies. Mais si je vois ça d'une manière plus reculée, si j'avais de l'argent, la contrainte, ce serait l'argent, en fait, de devoir gagner de l'argent pour en avoir. Voilà. Moi, ma contrainte, c'est je mange que ce qu'on m'offre à manger. Donc, je ne peux pas choisir ce que je vais manger. Mais finalement, j'aime tout, donc c'est assez facile. Et je peux pas choisir les moments où je peux être seule ou où je suis avec des gens. Mais finalement, vu que j'aime quand même être seule et que j'adore les gens, en fait, tout me va, quoi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Catherine, merci à toi pour nous conter avec autant d'authenticité ton aventure. Cette première partie sera complétée par une deuxième partie de l'émission Regarde ailleurs, où vous pouvez retrouver l'intégralité de ce podcast en tapant Regarde ailleurs sur tous les sites de streaming.